BFM Business et Tech & Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, toujours évidemment énormément de plaisir que de vous retrouver, bon week-end et merci bien d'être là, à la fois sur BFM Business, vous le savez, Radio Télé, sur la chaîne Tech & Co, sur YouTube, pour votre rendez-vous de la semaine, c'est De quoi je me mêle, toute l'actu donc de ces derniers jours. Avec en deuxième partie de quoi je me mêle, tout à l'heure, on va remonter le temps. Est-ce que vous vous souvenez, alors là je m'adresse aux plus vieux d'entre vous, de Second Life. C'était un peu les prémices finalement de cet univers en VR et de ce métavers tant chouchouté par Mark Zuckerberg. Eh bien on va vous raconter l'histoire de Second Life, ce sera tout à l'heure avec Christophe Joly qui a ressorti ses archives pour nous refaire vivre ce moment technologique qui a plus de 20 ans quand même, les amis. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre, si vous voulez réagir sur Twitter. Merci d'être là et on commence tout de suite par l'actu. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et l'actu cette semaine, c'est avec Anthony Morel, bien sûr, fidèle au poste, quoi qu'il arrive. Bonjour Anthony.
Salut François, salut à tous.
Anthony Morel que vous retrouvez donc sur BFM Business et RMC Story tous les matins. Ouais. Voilà, et puis après, entre midi et deux avec Estelle Denis. Et nous avons aussi Raphaël Bento qui est avec nous. Salut Raphaël.
Salut.
Bento d'ailleurs. Et Raphaël, vous pouvez le lire dans Les Numériques. Excellent site d'actualité tech avec énormément de tests. Bon, alors, on va commenter l'actu de ces derniers jours. Pas mal de choses à dire quand même. Tout à l'heure, on va parler d'intelligence artificielle. On va aussi évoquer de nouveaux services d'autoréparation chez Samsung. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Bon, maintenant, s'il faut avoir un bac pro Samsung de démontage de smartphone Galaxy S22, ça va pas être facile.
Si t'es aussi bricoleur que moi, c'est pas gagné.
Pas gagné. En fait, ton smartphone, tu le transformes en ectoplasme.
Oui, c'est voilà, ça. C'est ça. Mais ça fonctionne encore moins bien qu'avant, en fait.
Il est déstructuré.
Voilà, c'est un iPhone déstructuré, smartphone déstructuré. Très
c'est
bon.
Pas mal. Mais pour débuter, on va revenir sur le Vision Pro qui, évidemment, l'onde de choc de cette annonce d'actualité de la part d'Apple, se propage encore alors que ça fait plus de deux semaines maintenant. Et cette onde de choc, on la doit entre autres à Mark Zuckerberg, Anthony, qui, lui, de son côté, depuis plusieurs années, croit dur comme fer à la VR et à son métavers avec, ouais, on le sait, des milliards, des dizaines de milliards investis. Et il a donné son avis au Vision Pro d'Apple.
Ouais, et il est pas très impressionné, visiblement. Ouais. Alors peut-être qu'il fait ça pour se rassurer aussi, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Je l'imaginais en train de regarder la keynote, ouais, et tout ça, en train de dire non mais c'est bon ça, mais on le fait déjà.
Ça se ronger les ongles.
Ouais, c'est ça. Là. Non mais t'imagines quand même niveau de stress quand il devait attendre, parce que tu te dis toujours Apple, ils vont nous surprendre, ils vont présenter des trucs absolument incroyables. Est-ce que ça va être 10 000 fois mieux que notre MetaQuest, etc. Et alors, est-ce qu'il dit ça pour se rassurer ou pas? En tout cas, il a donné une petite petit speech à ses équipes, en fait, hein, tout simplement, comme il fait régulièrement, pour discuter de l'actualité tech, y compris de ce que font ses concurrents. Et donc, il a dit, en parlant du Vision Pro, alors je le cite, hein, c'est peut-être l'avenir de l'informatique, mais ça n'est pas celui que je veux. Et ce qui est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, ouais, enfin bon, mec, tu fais la même chose, en fait, hein, tu fais des casques de réalité virtuelle, et t'es en train de dire, ah non, mais Apple, non, c'est pas génial. En fait, il explique qu'il y a une différence de philosophie entre ce que propose Apple et ce que propose Meta. Il dit, voilà, pendant les démonstrations du Vision Pro, tout ce qu'on a vu, c'est un gars ou une fille tout seul sur son canapé avec un casque complètement isolé du monde, dans une sorte de vision un peu dystopique du monde, en gros une personne complètement isolée grâce ou à cause de la réalité virtuelle et de la réalité mixte. Et nous, chez Meta, ce qu'on veut faire, c'est l'inverse de ça, c'est le principe du métavers, c'est-à-dire de relier les gens, de leur permettre en fait d'avoir des expériences, des interactions, d'aller à des concerts ensemble, de se réunir, etc. Ouais. etc. Tu vois, donc en gros, il met en opposition les deux et lui dit, voilà, du coup, on boxe pas dans la même catégorie, on fait pas la même chose. Et puis, il tacle aussi au passage, il dit, oui, puis d'un point de vue technologique, bon, ouais, ils ont pas montré grand chose d'extraordinaire. Et puis, en plus,
ça coûte hyper cher. Il a pas dit que c'était mauvais.
Non,
je pense qu'il a même dit un mot gentil.
Oui, en fait, il dit, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que déjà, nous, on veut faire des produits beaucoup plus abordables. Et c'est de fait, c'est vrai. Pour le coup, MetaQuest, c'est $500. Là, on parle de 3005. C'est pas du tout la même chose. Et puis, technologiquement, ils n'ont rien fait que nous n'ayons fait. En gros, c'est ce qu'il a expliqué en substance. Donc, peut-être pour se rassurer, pour rassurer ses équipes, c'est de bonne guerre. Enfin, voilà, il ne les a pas taclés non plus trop méchamment.
Et puis en même temps, il a fait l'annonce du MetaQuest 3 quelques jours avant l'annonce d'Apple. Donc forcément, il n'allait pas dire que c'était génial et que tout le monde devait l'acheter. Le casque devrait sortir à l'automne, a priori. Donc voilà,
on aura plus des 500 dollars.
T'imagines, ils sont vraiment mieux que chez nous, chez Apple. Achetez leur casque, en fait. C'est mieux, en fait.
On va jeter notre Quest 3. Et puis, on jette l'éponge. Encore bravo, Apple. Mais c'est intéressant. Enfin, je pense que d'un côté, ça doit énormément rassurer Mark Zuckerberg, cette histoire-là. Parce que il se sentait un peu seul, quand même, dans cet univers. Hein. Et on sait que la concurrence, quand on lance quand même un nouveau secteur, elle a du bon, parce que ça va expliquer aux gens ce qu'on fait, etc., etc. Et je pense que de la part des yeux d'un Mark Zuckerberg, voir Apple se lancer là-dedans, même s'ils font pas la même chose exactement, c'est rassurant. Il se dit, j'ai bien fait quand même. J'ai bien fait d'investir autant et de me lancer là-dedans il y a quelques années.
Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que là, tout ce qu'espère Meta et ceux qui ont investi dans cette idée, alors soit du métavers ou soit plus globalement dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée, se disent chouette, Apple y va. Apple a cette force de, quand ils se mettent sur un segment de marché, démocratiser, c'est un grand mot parce que là on a un appareil à 3 500 $, mais peut-être qu'on aura des versions ultérieures qui seront peut-être moins chères éventuellement, mais en tout cas quant à la puissance de feu d'un Apple qui arrive sur un marché, clairement ça crée une brèche et ça fait qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui ne s'y intéressait pas jusque-là et qui s'y intéresse.
Bien sûr.
Je pense que vraiment Meta mise énormément là-dessus.
Évidemment.
Et sur le côté se rassurer, je pense qu'ils ont été aussi rassurés de voir que le casque d'Apple, même s'il est très esthétique, on a dit qu'il avait quand même des limites aujourd'hui technologiques en termes de miniaturisation, c'est-à-dire qu'il a toujours cette petite batterie qu'on doit porter à la taille, etc. Et je pense que ça, c'était aussi une des craintes de Zuckerberg, parce que Zuckerberg a toujours dit, non mais de toute façon, la miniaturisation, le fait d'avoir des casques qui ressemblent à des lunettes, qui puissent vraiment nous projeter dans le métavers de manière, j'allais dire, sans couture et sans qu'on ait besoin de porter quelque chose de volumineux, ça va prendre 5 ans, 10 ans. Si là, Apple était arrivé avec un truc miraculeux, tu vois, très léger...
Mais avec une claque technologique aussi...
Je pense que ça aurait été dur.
Oui, ça rassure aussi Mark Zuckerberg sur plein de points.
Absolument.
Finalement. D'accord, Raphaël, sur tout ça?
Je suis bien d'accord, mais après, c'est vrai qu'on a toujours cette question de l'usage du casque, même si Apple fait les choses bien parfois et ça risque de démocratiser la chose. Je me pose encore un peu des questions là-dessus. Est-ce que vous avez envie de travailler sur un ordinateur 4, 5, 6 heures dans la journée avec un masque de ski sur les yeux alors qu'il fait 28 degrés dans l'appartement? Je me pose encore des questions.
C'est vrai que dit comme ça, ça fout une claque.
Non, mais t'as raison, c'est toute la question. Mais...
Bon, déjà, 4, 6, 8 heures, c'est pas possible parce que t'as 2 heures d'autonomie. Ou alors il faut que tu branches ton truc.
Ce qui limite un peu l'intérêt du truc. Non, mais c'est ce qu'on disait dans l'émission qu'on a dédiée à Vision Pro, c'est que c'est probablement une V1, comme souvent avec les appareils d'Apple.
Oui, bien sûr.
Les gros technophiles vont l'acheter parce que c'est Apple, parce qu'ils sont fans, etc. Ils vont d'une certaine manière essuyer les plâtres. Et puis dans un an et demi, on aura une vision qui sera un vision ou un produit qui sera miniaturisé, qui sera amélioré et qui peut-être s'adressera à un plus grand public. On l'a vu avec l'Apple Watch. La première Apple Watch, elle était vraiment pas extraordinaire. Il s'en est pas vendu beaucoup. Et puis petit à petit, le produit a fait son chemin, en fait, et est devenu un produit quasiment mainstream aujourd'hui.
C'est vrai.
Voilà pour le Vision Pro. Alors, juste une petite anecdote liée à tout ça. Vous savez que quand un constructeur sort un nouvel appareil, il faut déposer le nom de cet appareil, la marque. Hein. Et là, le Vision Pro, évidemment, Apple a fait ça dans les règles de l'art. Enfin, pas tout à fait, Anthony.
C'est compliqué parce qu'effectivement, ils n'ont pas dû regarder du côté de la Chine.
Non.
Peut-être que c'était écrit en chinois, alors que c'était compliqué, tu vois. Mais en fait, en Chine, il se trouve que Huawei a un autre produit qui s'appelle le Vision. Et c'est en plus une paire de lunettes de réalité augmentée. Donc c'est un truc qui quand même
qui ressemble un peu
tu vois, c'est compliqué.
Oui, c'est encore c'était une paire de jumelles ou un truc, tu vois, un peu loin.
C'est ça. Mais là, le Vision, qui est un produit quand même très très proche, donc ça risque de poser problème. Donc qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va y avoir une bataille juridique, etc.? J'ai discuté avec des gens de chez Huawei qui m'ont dit, en souriant un peu, non, mais s'ils nous font un chèque de quelques milliards, ça devrait passer.
Ça devrait passer, c'est ça.
Alors, ils vont s'entendre, je pense, mais probablement qu'Apple va devoir.
Ça veut dire quoi, Raphaël? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas sortir ce masque-là sous ce nom-là en Chine?
Normalement, c'est ça, mais comme tu disais, souvent, en fait, il y a des accords de licence qui se font entre les constructeurs et c'est, ça a déjà été fait par le passé avec avec Apple. Ils ont déjà sorti d'autres produits. Je crois que l'iPad était déjà déposé dans certains pays.
Ouais,
et voilà, ce sera sûrement un accord de licence avec un chèque. À moins qu'il y ait bataille juridique, juste si Huawei veut les emmerder. Mais
iPad, je me demande si c'était pas entre autres une marque de tampons de serviettes hygiéniques, parce que les pads en anglais,
serviettes hygiéniques.
Ça, peut-être qu'ils n'avaient pas pensé. Effectivement, c'est pas le truc. Tu vois.
C'est même iPhone, je crois, qui avait été déposé par un IBM ou je sais plus quoi.
Avant
Apple, il y avait une histoire comme ça. Et Apple avait été obligé de racheter. Je dis peut-être IBM, c'est peut-être une bêtise, mais enfin, c'était un géant, je crois, de la tech américaine à l'époque, qui avait déposé le nom iPhone.
Je pense que là, maintenant, tous les produits avec le nom i ont déjà été déposés.
Oui, c'est ça.
Tu vois, soit par Apple ou soit par des petits malins qui se sont dit le i couteau, le i lavabo.
Le i i i, bien sûr.
Le i i i, oui.
Le plus connu, bien évidemment. Bon, alors, voilà, ça c'était pour le Vision Pro. On referme cette parenthèse là. Pour revenir à l'actualité de ces derniers jours avec VivaTech, on va pas revenir sur VivaTech puisque vous l'avez vraiment vécu de l'intérieur, surtout les canaux du groupe Altice, hein, avec sur la chaîne Tech & Co, sur BFM Business. Tu y étais, Anthony, moi j'y étais aussi. Ça a été quand même le théâtre d'annonces intéressantes, et notamment concernant l'IA, avec une boîte qu'on connaissait très peu. Alors moi, j'avais entendu parler d'eux, je crois que je les avais reçus d'ailleurs il y a quelques mois de cela, mais la explosion totale d'une boîte qui s'appelle Mistral.ai.
Mistral, alors je crois pas que tu les aies reçus.
Enfin, je les ai pas reçus.
Ça m'étonnerait. D'accord. Peut-être, parce que...
Ou alors, j'ai dû en entendre parler et je dois confondre.
Je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, ils ne répondent à personne. C'est ça le truc, en fait, c'est qu'ils sont extrêmement mystérieux. On parce a essayé de les lancer, mais c'est en fait... Ils sont très très discrets pour l'instant. C'est une boîte qui a, alors ils ont levé 100 millions, donc ils ont communiqué sur cet élément-là. Mais même si tu vas sur leur site internet aujourd'hui, c'est trois lignes. Je te les cite. C'est: on est en train d'assembler une équipe de classe mondiale pour développer les meilleurs modèles d'IA générative. On est à Paris. Si vous êtes chercheur ou ingénieur logiciel, contactez-nous. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a comme information sur cette boîte qui effectivement se veut une sorte de concurrent à ChatGPT, qui a été créé par des tronches, vraiment des tronches de la Silicon Valley. En fait, trois Français qui sont revenus, qui ont fait leurs armes chez Meta, chez DeepMind, la filiale d'intelligence artificielle de Google, qui sortent de Polytechnique, de Normal Sup. Enfin, voilà, vraiment des têtes très très bien faites et bien pleines, et qui disent en fait, il faudrait aujourd'hui qu'on ait des champions français, pas seulement qu'on ait des cerveaux français qui bossent dans la Silicon Valley pour ces grandes boîtes, mais qu'on crée, nous, nos champions nationaux. Et c'est un enjeu qui est hyper important. C'est pour ça que je trouve que c'est important de parler de cette entreprise Mistral. On n'a pas encore d'idée très précise de ce qu'ils vont faire. On sait qu'ils vont bosser sur des large language models, donc type ChatGPT, qui serait destiné aux entreprises. Ils disent avec un côté plus responsable que ChatGPT, avec par exemple le fait que les entreprises pourraient avoir un accès permanent à leurs données.
Oui.
ChatGPT, tu sais que l'un des gros problèmes, ce qu'on leur reproche, c'est que, en gros, elle siphonne tout ce qu'on lui donne, et parfois ça se retrouve dans des conversations. Enfin voilà, il y a un gros problème avec ça. D'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui interdisent l'utilisation de ChatGPT. Ouais. Donc, il y a probablement des trucs à faire avec des IA génératives françaises en langage français, ça c'est aussi un point très important pour éviter les biais anglo-saxons. Il faut qu'on ait aussi, c'est un enjeu de soft power également, nos propres intelligences artificielles. Et donc c'est comme ça, c'est avec des petits gars, des petits français qui veulent créer ces outils-là, qu'on va avoir ces intelligences artificielles made in France, qui sont un vrai enjeu de souveraineté nationale. C'est hyper important, je trouve.
Bien
c'est
sûr,
un exemple.
Mais évidemment.
On peut aussi parler de
100 millions, ça arrive pas tous les jours.
Alors,
quoi.
C'est pas mal. Après, la question, c'est est-ce que c'est assez? Puis, je te laisse la parole juste après, mais la question, c'est toujours, tu vois, les ordres de grandeur. C'est-à-dire que 100 millions, c'est bien, mais en face...
Mais par rapport aux 10 milliards d'OpenAI... Voilà.
C'est toujours pareil, quoi. C'est quand tu vois les budgets R&D de Facebook, de Microsoft...
Après, nous, on a des talents, on peut faire parfois aussi bien avec beaucoup moins.
On a les cerveaux, on n'a pas les milliards. Est-ce que les cerveaux peuvent compenser les milliards? C'est toute la question.
C'est tout à fait la question.
En tout cas, j'aimerais bien lever 100 millions de dollars avec juste trois lignes sur un site, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est ce que je voulais dire, en fait, c'est que effectivement, là, on pense 100 millions, ça fait une belle somme, mais face aux milliards qui sont investis aux États-Unis, l'Europe a un peu de retard pour le moment.
Ouais. Mais il faut vraiment, je pense qu'il faut qu'on compense, quoi. C'est ça. On a, oui, c'était Gilles Babinet qui disait ça sur notre antenne l'autre jour. Donc, notre champion digital, je sais plus exactement son titre, là, Robert.
Digital champion.
Digital champion.
Très, c'est mieux. Très
c'est, français, pas mal. C'est mieux. Pas mal. Franchement, sur une carte de visite, c'est pas mal. Digital champion, c'est pas mal.
Moi, je rêve de ça. Hein.
Je préfère ça que
tu as deux doigts de l'écrire alors que c'est pas vrai.
Oui, c'est ça. C'est pas mal. Il disait que, en gros, dans l'IA, dans le monde, t'as 200-250 personnes qui comptent et que sur ces 250, t'en as 80 à 100 ouais. français. Et donc, voilà. On a un énorme atout, mais encore faut-il derrière créer des outils puissants. Je pensais à un deuxième outil qui s'appelle Hugging Chat, que vous pouvez utiliser d'ailleurs, qui a été créé. Alors là, c'est un petit peu différent. Ça a été créé par des Français
à
New York.
Hugging Face, hein, exactement.
Hugging Face. Alors Hugging Face, je crois que c'est le nom de l'entreprise.
C'est le nom de l'entreprise et Hugging Chat,
voilà,
c'est leur service.
Exactement. Ils ont créé un Chat GPT aussi et avec même chose. En gros, ils se positionnent un peu en opposition avec Chat GPT sur le côté opacité, gestion des données personnelles, etc. Tu vois, là l'idée, c'est d'avoir un algorithme où tu puisses en gros mettre les mains dans le cambouis, sous le capot, aller voir exactement, complètement open source. Ça aussi, c'est des choses qui permettent de se différencier par rapport aux outils américains et peut-être voilà, d'avoir des beaux outils made in France qui, on l'espère, seront utilisés dans le monde entier. Voilà, qu'on soit pas encore une fois comme souvent dans ces lames de fond technologiques, tu vois, entre d'un côté les États-Unis, de l'autre la Chine, t'as la partie de ping-pong et puis nous, on est les ramasseurs de balles, quoi, tu vois, c'est un peu dommage.
Voilà, donc Mistral.ai qui a levé un peu plus de 100 millions sur du vent. Enfin, cela dit, quand
c'est pas mal.
J'ose même pas la terminer,
c'est pas
celle-là,
mal.
Parce que voilà. Mais j'imagine que derrière, bien sûr, ils ont trouvé des investisseurs parce que ils ont montré des trucs.
Ouais, hein,
on va pas, ils ont pas.
Non, mais évidemment,
levé comme ça 100 millions.
C'est pas sur du vent.
Donc ça, c'est cool.
Et t'as vu les investisseurs, hein, c'est quand même
c'est
des Xavier Niel,
c'est
Eric Schmidt, l'ancien patron de Google.
Ouais, ouais, ouais,
donc c'est vraiment des grands noms de la Silicon Valley.
Ils ont déjà quelque chose de structuré,
absolument,
qui a fait waouh, quoi, en quelque sorte.
Exactement.
Dernière chose, on a un talent ici qui, malgré tout, enfin malheureusement, travaille pour Meta,
ouais.
C'est Yann Lequin,
bien sûr,
qui est venu en rockstar aussi à Vivatech. Hein. Il y avait une file d'attente monstrueuse pour accéder en fait à sa keynote, enfin à son entretien en quelque sorte.
Ouais.
C'est vraiment quelqu'un qui compte, hein, dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Ah, c'est clair.
Et mais malheureusement, ben voilà, il travaille pour la concurrence.
On peut pas le blâmer. Hein,
non.
Salaires, si tu veux, tu vois, quand t'as Meta qui t'appelle, enfin, je sais pas combien il est payé, mais enfin bon, ça doit être des sommes complètement affolantes, tu vois.
Ouais.
Évidemment que tu es
tenté, puis qui met de côté, qui cagnote un peu, et puis après il vient en France, il sera
bah oui, c'est peut-être ce qu'il va faire.
Ça,
mais
attendez,
c'est peut-être ce qu'il va faire.
Yann, s'il te plaît, c'est bon. Là, t'es plein.
Non, okay. Mais moi j'aime bien son discours à Yann Lequin parce qu'il est rafraîchissant dans cette période un peu anxiogène autour de tout ce qui touche à l'IA. C'est-à-dire qu'on en parle souvent, c'est l'IA qui va nous voler tous nos emplois, l'IA qui va à un moment se retourner contre l'humain. Et lui a vraiment un discours de démythification par rapport à tout ça, en disant non mais attendez, l'IA, on n'est pas du tout là. L'IA, elle va nous aider à gagner en productivité. Ça
ouais,
va
ouais.
Pas.
Il est, oui, c'est-à-dire qu'en
ça
fait, il casse un peu la psychose qu'on peut avoir sur l'IA, un peu comme Luc Julia d'ailleurs.
Exactement.
Qui sont, je dirais, de la même génération, qui sont des vieux routards de l'IA.
Ouais.
Voilà, ça fait des dizaines d'années qu'ils sont là-dedans, hein,
ouais,
ces gens-là. Voilà, pour eux, il n'y a pas de stress particulier à avoir.
Ils peuvent passer pour un peu blasés. C'est vrai,
oui,
quand tu vois leurs posts sur les réseaux sociaux, ça fait des fois un peu genre j'ai tout vu. Non mais attendez, vous avez rien compris. Vous êtes un peu débile. Vous parlez.
Après, il faut se méfier quand même aussi parce que sous leur assise et leur, on va dire, légitimité de l'IA, est-ce qu'ils voient tout en fait? C'est ça. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Tu veux dire qu'ils sont trop dans le
ils
la
sont trop dans leur truc et voilà. Et quand on voit ChatGPT, voilà, ça impressionne tout le monde et j'imagine que ça impressionne Yann Lequin comme Luc Julia avant que ça arrive.
Je crois que ça les impressionne pas tant que ça en fait, parce qu'ils disent c'est des outils qui existaient tels quels depuis des années dans les laboratoires de recherche. Ce qui est impressionnant, c'est le fait d'avoir lancé un produit que les gens aient envie d'utiliser et donc pour le plus grand monde, effectivement, il y a cet effet waouh. Mais pour les chercheurs en intelligence artificielle, en fait, c'est des outils qui existaient déjà dans les labos depuis longtemps. Et c'est ce qu'il explique, c'est que finalement rien de nouveau sous le soleil. Alors c'est vrai que vu du point de vue d'un utilisateur lambda, ça peut sembler être très blasé et très oh là là, c'est bon, ce gars, il a déjà tout vu. Mais
je sais pas si vous avez.
Je pense qu'il est sincère de ce point de vue-là.
Pour terminer avec Yann Lequin, il est venu à Vivatech pour annoncer un truc quand même. Hein.
Oui.
Une nouvelle IA. Encore plus mieux meilleur top que ChatGPT.
Qui ringardiserait ChatGPT, qui s'appelle GPA, et qui se rapprocherait un petit peu plus d'une IA générale, comme on dit. C'est-à-dire, en gros, c'est une IA qui serait basée sur le fonctionnement du cerveau, qui imiterait le fonctionnement du cerveau, et donc qui aurait une intelligence qui analyserait des images, qui aurait une intelligence contextuelle, et qui ne se contenterait pas comme ChatGPT de piocher dans une base de données et de régurgiter en synthétisant et en remettant en forme. Bon, faudra voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que sur le papier, cette promesse, elle est quand même assez vertigineuse. Ouais,
on n'a pas de date, on ne sait pas quand est-ce que non. ça va arriver, enfin, on ne sait rien. Quoi.
Non, je crois que ce sera accessible en open source pour les chercheurs, si je ne dis pas de bêtises, ouais. dans un premier temps. Ça va être intéressant quand même.
Ouais, et puis Yann Lequin qu'on aimerait bien avoir sur le plateau de l'une de nos émissions. Hein. Alors c'est quelqu'un de très occupé, mais voilà, si vous le connaissez,
on aimrait bien l'avoir. Si vous êtes breton, parce qu'il est breton.
Il est breton ?
Ouais, bien sûr. Donc, bon. La mafia bretonne, moi je me
bah, en plus, les Corses et les Bretons, on s'entend bien. Toi, t'es un peu breton.
Je suis nantais, donc je suis breton.
Toi, t'es
voilà, moi, je suis un produit du terroir parisien.
Bon, on s'en fout alors. Ça ne nous intéresse pas. C'est vrai que la Corse et les Bretons, en général, s'entendent bien. Bah, donc,
bien sûr.
Yann. Tu serais le bienvenu pour nous expliquer un petit peu ta vision de l'intelligence artificielle.
On fera une émission spéciale, je pense, s'il vient.
Mais même plusieurs,
même
je pense.
Plusieurs, évidemment.
Plusieurs, voilà. Ça, c'est pour l'IA. Alors, pour rester dans ce domaine-là, il y a aussi une pour revenir à cette psychose que j'évoquais tout à l'heure, il y a des études qui commencent à fleurir à droite à gauche et qui disent, attention, l'IA, ça va être un tsunami.
Ouais.
Un tsunami qui va déferler dans tous les pans de la société et qui va avoir des impacts sur l'emploi.
Absolument.
On est d'accord. Et alors bon, faut toujours se méfier de ces études parce que il y en a une qui va jusqu'en 2040. Alors on a du mal à imaginer ce qui va se passer dans 3 mois.
Et d'ailleurs c'est marrant quand tu ressors les études de 2010 qui nous parlaient déjà d'intelligence artificielle et qui disaient en gros que tout serait automatisé d'ici 2025, tu vois, et on y est quasiment oui, tu as raison. Il faut carrément les prendre avec a grain of salt, comme disent les Américains. Mais cela dit, il y a des choses assez intéressantes sur les tendances, quoi. Tu l'as vu, non, cette étude du Boston Consulting Group?
C'était 4 Français sur 10 qui ont peur de que leur emploi se fasse remplacer à terme.
Exactement.
Mais en même temps, il y a peut-être quand même quelques métiers qui vont changer profondément, je pense, et ça risque d'arriver assez vite. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus être dans la parano et que tout va être remplacé très rapidement, mais on a vu dernièrement, on a vu quoi ? Une présentatrice au Koweït qui est générée par une IA. Il y a quelques semaines à peine, une présentatrice météo aussi en Suisse qui est aussi générée par une IA. Donc François, attention, peut-être que tu vas devoir changer de boulot dans pas longtemps.
Je crois qu'il fallait que je change de sexe. Tu parlais de présentatrice, je me suis dit là, les gars, on va avoir du boulot. Bah,
peut-être
quand même,
les deux. Hein. Écoute, voilà.
Je vois qu'une petite perruque,
mais oui.
Je me rase.
Ouais, c'est bien.
Ok,
ça peut être sympa.
Ça peut le faire. Hein.
Françoise Lia.
On avait qu'est-ce qu'on a vu aussi, IBM il y a quelques semaines à peine qui avait annoncé aussi que 30% des emplois dans la boîte de liés à l'administratif aux ressources humaines n'allaient pas être remplacés en interne et qui seraient à terme gérés par de l'IA, merci.
Ouais.
Voilà, on a aussi quelque chose à laquelle j'aurais jamais pensé. Levi's a fait un partenariat avec une entreprise spécialisée en IA pour générer des mannequins sur son site. Donc vous savez, quand vous voulez acheter un jean ou des vêtements, vous voyez des personnes qui sont habillées avec des fringues.
Ouais.
Eh bien, Levi's maintenant va afficher des mannequins générés par IA sous couvert de diversité et d'inclusivité pour avoir des personnes de tous les sexes, toutes les ethnies, etc. Finalement, je pense que c'est surtout pour faire un peu des économies et de pas avoir à payer des vrais mannequins, des photographes, etc.
Ça va être
d'un coup tu fais un strike, hein.
Ouais.
Tu payes plus de mannequins, tu payes plus de photographes.
Ah ouais.
Alors bon, tu dois payer une solution logicielle, bien sûr, qui doit coûter de l'argent, mais
mais c'est vrai. Mais t'as raison,
tu fais des économies incroyables.
Et
là, c'est Levi's, mais demain ça sera tout le monde.
Bien sûr, bien sûr. Bah, d'autres exemples, c'est par exemple dans la pub, Martini qui avait lancé une campagne de pub générée par l'intelligence artificielle avec Midjourney, où en 30 secondes, tu as des visuels, des affiches en 4x3, là où il aurait fallu des semaines avec un directeur artistique,
et des budgets, des réunions
interminables, etc. Non,
c'est vrai.
Donc là, ouais, forcément. Après, sur le côté, par exemple, pour les journalistes, alors c'est pas pour défendre notre profession, hein, qui ne sera pas plus épargné que les autres de toute façon, mais je pense que l'humain aura toujours une valeur ajoutée sur la machine. Ouais, c'est-à-dire que, tu vois, je ne suis pas certain que les gens se pressent pour regarder des débats animés par des intelligences artificielles, tu vois. De la même manière que, moi je suis
impatient. Ça pourrait être drôle quand même.
Peut-être qu'il y aura des trucs truc marrant, cela dit. Mais de la même manière que pour les échecs, tu vois, l'IA a transformé les échecs, évidemment. Aujourd'hui, un humain ne peut pas battre un ordinateur. Même Magnus Carlsen, le champion du monde, le meilleur joueur de tous les temps, enfin, on peut en discuter, ne pourra plus jamais battre un ordinateur. C'est sûr et certain. Et sur Internet, tu as des parties ordinateur contre ordinateur. Tu as AlphaZero contre Stockfish, tu vois, les logiciels les plus puissants. Sauf que ces parties-là, personne ne les regarde, ça les intéresse pas. Alors que les gens, ils veulent voir Magnus Carlsen contre Alireza Firouzja, des batailles humaines. L'imperfection de l'humain, c'est aussi un truc qu'on a envie de voir. Tu vois, c'est aussi ça que tu as envie de voir comme spectacle. La machine, dans toute sa perfection, c'est pas forcément quelque chose de fascinant à observer, en réalité.
Oui, et puis là, enfin, quand tu vois deux ténors, par exemple, des échecs qui s'affrontent, tu décèles chez eux un vent de panique, un stress parce qu'ils sont en train de perdre, etc. Enfin, il y a tout un truc que tu racontes.
Exactement.
Et voilà.
La machine, elle trouve juste le coup parfait, puis un autre coup parfait, puis un autre coup
c'est
parfait,
ça, puis
un autre
coup parfait. Et puis après, il y en a un qui perd, un des deux qui perd, et puis voilà. Et puis c'est pas grave, hein, ça reboot et c'est réglé.
C'est exactement ça. Donc, et de la même manière que pour l'art, parce qu'on parle souvent des œuvres générées par Midjourney, Dali, etc. Et ben les études montrent que en fait, alors c'est vrai que quand tu le dis pas aux humains, on s'en rend pas compte. Mais à partir du moment où tu sais qu'une œuvre a été générée par une IA, tu lui attribues moins de valeur en fait.
Ouais.
C'est-à-dire, tu te dis, ah ouais, bon, c'est un truc de l'IA, bah, je préfère celle-là qui a été faite par un humain. C'est
sur le... on est au tout début de l'histoire.
Oui, t'as raison.
On sait pas trop ce qui va se passer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Dans l'actu aussi, on va complètement changer de sujet. Vous savez qu'il y a cette volonté de la part des pouvoirs publics de nous faire conserver notre smartphone le plus longtemps possible. Alors, c'est évidemment, on nous incite à acheter des smartphones reconditionnés, à les réparer dès qu'ils ont un petit souci, que ce soit la batterie, l'écran, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience de la part des marques, Anthony, sur ce sujet. Apple a lancé l'année dernière une espèce d'usine à gaz qui vous permet de réparer chez vous votre smartphone, mais quand vous voyez ce que ça représente, il faut un appartement de 200 mètres carrés pour installer tout l'atelier.
Ouais.
C'est drôle d'ailleurs, cette grande malle là, moi je trouve que c'est presque un pied de nez de la part d'Apple. Vous voulez nous obliger à sortir un kit de réparation, mais vous allez voir, vous allez être
c'est
servi.
Un peu ça. Oui, parce qu'on rappelle, tu reçois une grosse valise qui pèse je sais plus combien, 30 kilos, avec tout le kit de réparation, tu dois payer des cautions pas possibles, etc.
Bien sûr.
Mais je pense que c'est ça, c'est-à-dire que il y a beaucoup de communication en fait dans cette dans ces annonces, que ce soit Apple ou les autres marques, parce que tout le monde est en train de suivre, en train de dire voilà, mais non, changement de communication, parce que ils nous ont dit pendant des années, surtout touchez pas à votre téléphone, donnez ça à des réparateurs agréés ou dans nos magasins et on vous les répare, etc. Maintenant c'est non, mais tu peux le faire toi-même, tout le monde est bricoleur, suis nos tutos sur internet, parce que c'est ça le principe, c'est que tu vas pouvoir acheter des petits outils, acheter la pièce de rechange, regarder des tutos sur internet et puis faire la manipulation toi-même. Bon courage, si t'es MacGyver, ok, si t'es Anthony Morel, jamais, hein. Enfin, je te le dis tout de suite. Moi je vois les vidéos des gens qui sont en train de faire des trucs, des soudures et des machins, jamais je ne fais ça, c'est très très clair. Donc je suis pas convaincu du tout, si tu veux. Je pense qu'ils se donnent bonne conscience, que sur le papier c'est très bien de dire regardez, vous pouvez le réparer vous-même. Je pense qu'il y a à peu près 0,001% des gens qui vont le faire.
C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses toi, Raphaël?
Alors, je suis d'accord, je pense qu'il y a une bonne partie de comme de la part des marques. Alors là, on va parler de Samsung qui vient de sortir son kit de réparation en Europe. Mais c'est pas si compliqué que ça non plus. Franchement, quand tu regardes les tutos, alors ça dépend ce que tu veux changer comme pièce, mais il y a des trucs qui sont très très faciles.
Toi, t'as déjà démonté des
smartphones. Tout
de suite. T'es plus bricoleur que moi, je pense. Franchement,
smartphone, ordinateur.
Il a son bac. Voilà. Il a son bac. Il fixite. Ouais. Non, mais c'est ça. Non, mais effectivement, après, quand t'as les mains dans le cambouis et tout, je peux comprendre ton point de vue. Tu as l'habitude de démonter ces petits appareils.
Ouais.
Ça doit te plaire d'ailleurs, j'imagine.
Oh, j'aime bien, c'est rigolo, mais mais vraiment, on peut se dire, ça va être ultra compliqué. Tout. Alors, honnêtement, un smartphone, c'est plus compliqué qu'un ordinateur. Mais aujourd'hui, il y a des projets comme bon, il y a alors le Fairphone qui a fait beaucoup parler de lui, qui est un projet de smartphone modulaire et réparable. Il y a aussi Framework qui fait beaucoup de bruit depuis un ou deux ans du côté ordinateur. Et là, tout est, c'est des petits clips, il y a quelques vis à enlever, mais il y a très peu de fiches.
Mais là, c'est fait exprès là. Pour le
c'est vrai que là, c'est étudié pour. Ouais. Alors, c'est vrai que là, quand on dit, je vais devoir réparer mon Samsung, il faut s'y prendre un peu plus, faut faire gaffe, quoi, parce que tu débranches la mauvaise fiche, tu casses tout.
C'est ça.
Mais
c'est ce qui est dommage, tu vois.
C'est quand même,
Il est encore plus cassé qu'avant, c'est dommage.
Vous pouvez me le rembourser, Apple?
Non, c'est vous qui l'avez bidouillé. Hein,
en revanche, on vous fait une remise de 50 euros sur le prochain que vous allez acheter.
Ah, ça, c'est sympa.
Qui est à 1400 euros.
Voilà, donc 1350, vous faites une super affaire quand même.
Mais je trouve l'initiative pas mal, et sur certaines pièces, c'est facile. Changer une batterie, honnêtement, c'est assez facile. Et du coup, Samsung lance branche son truc, son kit. Alors le petit kit boutique coûte une trentaine d'euros, ce qui est quand même assez cher, hein, parce qu'on trouve des kits de réparation pour une dizaine d'euros sur internet, mais bon. Et puis il lance donc des petits tutos, et puis les pièces sont disponibles. Ouais. Donc il y a quand même une question un peu de durabilité qui est quand même là, qui est intéressante. Ouais. Mais effectivement, est-ce que les gens vont se motiver à aller réparer leurs trucs à la maison?
Et alors Samsung sort quoi en fait, la
oui,
même chose?
Alors je vais te dire exactement pour ceux que ça intéresse, les pièces que tu peux remplacer, c'est écran, vitre arrière, les ports de charge sur les S20, S21, S22, et pour les ordinateurs, les Galaxy Book Pro, c'est la dalle, la batterie, le pavé tactile, la touche d'alimentation et les supports en caoutchouc. Donc voilà ce que tu peux changer, sachant que c'est pas donné non plus, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire oui, mais alors à ce moment-là, ça va me coûter beaucoup beaucoup moins cher que de passer par un réparateur agréé. Tu vois, par exemple, pour changer l'écran d'un Galaxy S22, c'est autour de 150 euros. Plus le kit outil.
Si tu le fais toi.
Si tu le fais toi. Plus le kit outil. Franchement, tu vas chez un réparateur agréé, ça te coûtera pas beaucoup plus cher que ça.
Ouais, c'est une des problématiques.
Ouais, donc c'est voilà. Ouais,
c'est même pas motivant.
Bah,
en fait.
Voilà, parce que tu pourrais te
sauf
dire
si
bon bah.
Si t'es vraiment comme Raphaël, tu démontes des téléphones
oui,
toute la journée.
Oui, le do it yourself, le do it yourself, c'est intéressant si vraiment ça te permet de faire des économies.
Évidemment.
Quoi. Sinon,
autrement, bah, voilà.
Bah, sinon personne ne va le faire. Donc c'est pour ça. Moi, je pense qu'ils le font parce qu'effectivement, il y a cette tendance dans la population générale à on veut des smartphones qui durent plus longtemps, etc. Donc ça répond quand même à une demande du consommateur, ça répond aussi à une demande du législateur, hein, que ce soit aux États-Unis ou en France, ça pousse pour le droit à la réparabilité, l'administration Biden aux États-Unis pousse pour ça. Mmh. En France aussi, on a les petites étiquettes maintenant, voilà. avec la réparabilité, etc.
C'est une donc nécessité.
On voit bien, voilà, c'est dans l'air du temps, ouais. Donc ils y vont tous et c'est logique et ça va plutôt dans le bon sens. Après, bon, je suis pas convaincu que beaucoup, beaucoup de gens, en réalité, s'emparent de ces outils.
Alors Samsung s'y met, avec, tu l'as dit, Galaxy S20, 21, 22. Pas les pliants, hein, quand même, ils exagèrent pas.
Non, ça, je pense que même les réparateurs agréés, ils doivent bien galérer, mais...
Tu m'étonnes.
Même imagine les un réparateur agréé, tu dis, ben voilà, je viens avec mon Fold, qui est donc le smartphone pliant, vous connaissez. Non, vous voulez pas le réparer.
Non. Okay. Non.
Qu'est-ce que je fais? Je le mets à la poubelle direct.
Oui, okay. C'est ça. Vous merci. Achetez le 5 après. Ouais. C'est ça. Non. Le prochain sort bientôt.
Après, faut voir si on économise quand même la main d'œuvre, si... En boutique, ça vous coûte, je sais pas, 50 euros de main-d'œuvre, plus le prix de l'écran. Bon, là, vous allez peut-être économiser 50 euros. Bon, c'est toujours ça de prix, mais c'est vrai que tu disais que les écrans sont à 150 euros, mais ça peut monter sur le Ultra à 300, plus de 300 euros.
Ouais, parce que c'est vraiment une pièce très, très, ouais. Très qualitative, en fait.
C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Pour terminer, on va parler de Google Photos, que vous utilisez peut-être. Franchement, moi, j'utilise Google Photos. Je vais vous dire pourquoi, parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs systèmes de stockage de photos dans le cloud. Voilà. Alors souvent on critique Google en disant, bah voilà, évidemment, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Moi, je paye parce que en fait, il faut, tu payes pour avoir un stockage, une capacité de stockage.
Ouais, sinon, t'es vite.
Mais l'IA, ça fait des années que moi, je suis bluffé. Tu
c'est
vois,
vrai.
Tu tapes coucher de soleil, il va te sortir toutes tes photos de coucher de soleil. Tu tapes, je sais pas moi, le prénom de ta cousine, il va détecter parce qu'il a préalablement détecté tous les trucs. C'est vraiment incroyable. Et ça fait des années. Hein,
ouais, c'est ça, hein. Le côté moteur de recherche est très spectaculaire.
Voilà. Et Google Photos vient d'annoncer, enfin, je sais même pas s'ils ont annoncé, ils l'ont annoncé en fait, une nouvelle fonctionnalité, ou en tout cas quelqu'un a détecté une nouvelle fonctionnalité.
Exactement. Et c'est alors je sais pas comment dire du coup, c'est embêtant. On a la reconnaissance faciale.
La reconnaissance dorsale.
Oui, c'est ça. C'est en fait la reconnaissance faciale, mais de dos.
La reconnaissance nucale.
La reconnaissance nucale, c'est pas mal. On garde. C'est-à-dire qu'en gros, la reconnaissance faciale fonctionne même si tu es de dos. Voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité. Alors, c'est assez étonnant. Alors, quand on dit reconnaissance faciale, en fait, c'est pas de la reconnaissance de la boîte crânienne. En fait, c'est qu'il va prendre une image de ta tête et de ta silhouette et qu'il va en fait l'agréger avec plein d'autres métadonnées dont il dispose.
Voilà, et la forme de ton crâne, peut-être tes cheveux, tes oreilles.
Non, c'est même pas ça. Ça va être plutôt si t'as pris d'autres photos au même moment, au même endroit, les vêtements que tu portes,
d'accord,
etc. Et en fonction de tout ça, il va faire, si tu veux,
un comparatif.
Exactement. Il va dire, bah si, là, c'est forcément c'est François, il a la même chemise.
Ouais,
là,
sûr.
Ok, il est de dos, mais c'est la même personne. Bim, hop, t'es reconnu. Et donc, voilà. On pourrait, mais c'est intéressant de voir que ces systèmes de reconnaissance faciale, ils sont de plus en plus efficaces de toute façon. C'est-à-dire qu'on peut te reconnaître maintenant, que tu sois visage nu, si tu as une barbe, si tu as des lunettes de soleil, si tu as changé de coiffure, si tu as une photo qui a été prise de toi il y a 20 ans ou 30 ans. en fait, on va être capable de te détecter. Il y avait aussi la détection du visage, y compris quand tu portes un masque, tu sais, pendant le Covid. Ils avaient fait ce truc-là pour déverrouiller les téléphones, ou même avec un masque chirurgical, on est quand même capable, à partir des yeux et du haut de ton visage, de te détecter. Ça devient quand même assez flippant. Hein. La reconnaissance faciale, c'est quelle que soit la position, quelle que soit la façon dont tu essaies de te cacher, on peut te retrouver d'une certaine manière.
Google Photo.
Mais moi je l'utilise pas, mais je sais que j'ai regardé un peu comment ça fonctionne et tout. C'est vrai que c'est assez incroyable, hein, le fait de pouvoir retrouver n'importe qui, n'importe quand en quelques clics, c'est assez fou.
C'est un outil assez génial.
Ouais, c'est génial. Et franchement, ça marche très très bien. Ils ont été malins parce que pendant des années, tu avais un stockage illimité de photos. Je sais pas si vous vous souvenez. Et puis il y a 2-3 ans, ils ont dit, c'est fini la fiesta, les gars. Oui. Maintenant, dès que vous dépassez telle capacité, il faut payer. À noter, tiens, j'ai dit, mais je le répète parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Je fais pas de la pub pour Amazon, mais si on est abonné à Amazon Prime, vous avez dans tout le bouquet de services offerts le stockage illimité de toutes vos photos sans compression.
C'est pas mal.
Enfin, peu de monde le sait. Ouais. Alors c'est moins poussé que Google. Il y a de l'IA, mais ça marche moins bien. L'appli c'est pas au niveau de Google, mais on a Prime Video, enfin si on a le l'abonnement Prime global et qu'on a beaucoup de photos à stocker, c'est illimité et c'est surtout pas recompressé. Donc tu te retrouves avec la même qualité de photo originale. Voilà pour l'actu. Pas mal de choses quand même hein, cette semaine. Et c'était un vrai plaisir que de commenter tout cela avec vous, messieurs. Merci Raphaël Benteo.
Ben merci à vous pour les numériques.
Tu fais des petits tutos, des montages de smartphone de temps en temps.
J'en fais pas trop. Alors j'ai fait une émission spéciale réparabilité il y a quelques jours là.
Ah ben voilà.
En tiens, direct sur Twitch.
Tu sais quoi,
on va regarder.
On va aller voir. Je pense qu'avec avec Anthony d'ici la fin de l'année, notre défi c'est de peut-être démonter un smartphone.
Écoute, c'est pas mal comme défi, je trouve.
Je pense qu'il faut qu'on prenne un smartphone pas trop cher, histoire de pas trop pleurer si on n'arrive pas à le réparer.
C'est l'avantage de Samsung quoi, c'est que tu peux prendre. La remarque, c'est que sur les Galaxy S. Mais peut-être qu'ils vont étendre ça à leur milieu et entrée de gamme, tu vois.
Qu'on peut commencer par un Fairphone, puisqu'il est fait pour ça.
C'est plus facile.
C'est plus facile. Ouais, puis après, on montera en gamme, etc., etc. Merci Raphaël, merci Anthony.
Merci.
Merci à tous les deux pour cette première partie de quoi je me mêle et le club de la presse IT. Second Life.
Oh là là.
Quelle histoire ce truc. Ah, vous vous en souvenez?
L'ancêtre du métavers.
Pas né à l'époque.
J'étais né, mais j'étais petit.
Il est tout petit. Nous, on l'a un peu connu.
Bien sûr. C'est vraiment l'ancêtre du métavers. Vraiment, il y avait cette notion d'univers persistant. Tu pouvais vivre une deuxième vie parallèle. Exact. Tu pouvais créer ton business, gagner de l'argent. Enfin,
tu avais deux images par seconde quand tu te baladais. Oui, parce que tu avais ton modem 56K.
Bien sûr.
Tu n'avais pas le temps de charger les décors.
C'était pas pire que les premières images du métavers de Zuckerberg. Hein.
C'est plutôt mieux même.
Et donc, on va revenir sur l'histoire de Second Life dans un instant avec Christophe Joly qui a ouvert ses encyclopédies. Merci, vous restez avec nous pour la deuxième partie de « De quoi je me mêle ?»
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.